your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Daily de langue, l'émission qui décrypte la langue de tous les jours, c'est maintenant et jusqu'à 13h sur Prune.
I have something to tell you.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Daily de langue, votre émission linguistique mensuelle qui vous fait plonger au cœur des rouages de la langue. Moi, c'est Arsène et autour de la table, il y a Baptiste.
Bonjour.
Nina.
Bonjour.
Et Sohan.
Salut.
On espère que vous avez passé un bon Noël et que vous êtes installés confortablement, bien au chaud, de préférence sous un plaid, au coin d'une cheminée, dans une pièce joliment guirlandée. En tout cas, nous, on est très contents de vous retrouver en cette fin d'année. On a tout plein de choses à vous raconter, à commencer, si vous le voulez bien, par une petite histoire. Il était une fois un mauticier. Un homme qui était chargé de créationner des mots. Ce mauticier aimait beaucoup son travail, mais il était très désespérimé car personne n'aimait ses créationneries, les trouvant trop tarabiscornues ou bien pas assez utilitesques. Un jour, pourtant, un vagabondeur passa par le village et, en demandant son chemin, il utilisa des mots très étranges que personne n'avait jamais auditionnés. On l'envoya chez le mauticier du village qui l'accueillit bras grands ouvertement. Le vagabondeur confessionna alors qu'il était pour sa part nouveau motricien, l'équivalent de mauticier dans la contrée voisine. Lui non plus n'était pas très successeux avec ses mots, si bien qu'il avait décidé de partir. Les deux hommes se perdirent en discutaillerie pendant des heures, et c'est alors que leur vint une fabulesque idée. Ils se mirent à composer des chansons remplies de leurs créationneries. Ils allèrent ensuite les déblatériser sur la place du village, et tous les habitants se mirent à chanter tue-têtement les savourables mélodies pleines à craquer de bizarretés linguistiques en tout genre. Et c'est depuis ce jour que, grâce aux mauticiers et aux nouveaux motriciens, personne n'eut plus jamais peur de créationner autant de mots que leur inspirait leur fantaisie. Dans cette petite histoire, j'ai utilisé 17 mots que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, même en cherchant bien. Ce sont ce que certains appellent des barbarismes, c'est-à-dire, selon la définition du dictionnaire de l'Académie française, une façon de parler incorrecte et vicieuse. Bref, un mot qui n'existe pas. Et pourtant, et c'est une vraie question, est-ce que ces mots inventés vous ont empêché de comprendre mon histoire ? Dans vos conversations amicales, privées, professionnelles, il vous est sans doute déjà arrivé de prononcer sans le vouloir un mot qui sonne bizarre, un mot à propos duquel on se dit en plaisantant « c'est pas très français mais tu m'as compris ». Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on se sent presque obligé de s'excuser lorsqu'on emploie un mot qui ne nous semble pas correct ? Comme si c'était un peu interdit. C'est peut-être le souvenir de l'époque où, quand on était enfant, on commettait très souvent ces fautes de français, des fautes que les adultes, pensant bien faire, s'empressent de corriger en disant « non, ça ne se dit pas ». Mais pourquoi ça ne se dit pas ? Qui a décidé que « savourable » n'était pas français ? Si jamais, enfant, on ose contester, défendre ce mot auquel on tient, aussitôt se dresse devant nous l'argument d'autorité ultime. Celui qui ne permet aucune riposte et qui coupe court à toute discussion. Ce n'est pas dans le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est ce gros livre intimidant qui renferme toute la vérité et rien que la vérité sur la langue française. Malheureux celui qui oserait remettre en question ces définitions savantes, écrites par des gens qui, sans doute, ont une connaissance suprême et parfaite de la langue, que nous autres pauvres mortels pourrions à peine imaginer. Bon, bien sûr, je grossis le trait, mais l'idée est là. Le dictionnaire est mieux placé que quiconque pour nous dire comment parler notre propre langue. Or, ce serait oublier qu'une langue, c'est comme une rivière. C'est toujours en mouvement, insaisissable. Et une langue évolue sans cesse. Des mots émergent tous les jours. Certains se répandent très vite dans la bouche des francophones. Par conséquent, le dictionnaire est toujours et sera toujours en retard sur la langue qu'il décrit. À titre d'exemple, le mot « féminicide » utilisé pour la première fois en 1976 et dont l'usage s'est largement répandu dès le début des années 2010, n'est entré dans le Larousse qu'en 2020. Le dictionnaire de l'Académie française, dont le quatrième et dernier tome est sorti il y a quelques semaines, est déjà obsolète. On n'y trouve ni les mots web, ni smartphone, ni le mot mail, en tout cas pas dans son sens contemporain. Aujourd'hui donc, on va vous parler de ce qu'on appelle les néologismes, c'est-à-dire les mots que l'on invente consciemment ou sans le faire exprès et qui enrichissent notre langue continuellement. À la fin de cette émission, vous serez capable de faire des néologismes à tour de bras et on espère, on vous aura convaincu de ne plus jamais vous empêcher de dire un joli mot sous prétexte qu'il n'est pas dans le dico.
Vous écoutez Daily de langue sur Prune.
Alors, créer un mot, c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait ? Est-ce qu'il faut avoir une inspiration divine ou peut-être avoir Bac plus 16 en littérature ? Heureusement que non, rien de tout ça. Créer un mot, c'est très très simple. Il faut juste un peu d'imagination et quelques outils que l'on va vous présenter.
Dis-nous, nous sommes toutes oui.
Alors, pour faire des néologismes, il existe beaucoup, beaucoup de processus différents. On va citer les principaux. Une des façons les plus courantes de créer des mots, c'est d'utiliser des affixes.
Tu peux définir ce qu'est un affixe ?
Alors, comme j'avais dit à la première émission, les affixes font partie de la morphologie. Donc, c'est plus ou moins une science qui étudie des petits bouts de mots qui s'ajoutent à un mot de base pour modifier son sens. Donc, par exemple, le sur de surdoué ou de surestimé et le âge de jardinage ou balayage sont des affixes.
Mais ça, c'est pas plutôt des préfixes ou des suffixes ?
Alors, oui. En vérité, les affixes, c'est le nom général pour englober tous les petits bouts de mots qu'on ajoute à ce qu'on appelle la base lexicale, que ce soit avant ou après le mot, que tu veux changer. Il faut savoir que tous les affixes ont un sens précis qui ajoute de l'information au mot.
Et même parfois, certains affixes peuvent au fil du temps devenir des mots à part entière. Comme quand tu parles à ton ancien partenaire, tu dis ton ex. À la base, le préfixe qui désigne une ancienne relation ou statut, comme dans ex-femme, ex-patron ou ex-ministre. Mais quand on dit juste mon ex, ça sous-entend qu'on parle bien d'une ancienne relation amoureuse.
Et d'ailleurs, si nous on parle d'affixes dans les néologismes, c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils sont vraiment très présents dans la langue et ils permettent de créer des nouveaux mots très facilement en fait.
Bah oui, tout à fait. Enfin, par exemple, comme tu l'as dit, en français, on a des préfixes qu'on rajoute devant le mot. Qui permet de modifier son sens tout en gardant sa catégorie grammaticale. Donc, si on rajoute un préfixe à un verbe, ça reste un verbe. Par exemple, le préfixe « re » dans « refaire » indique qu'on fait une deuxième fois, comme pour « redémarrage »,« revoir », etc. Il y a beaucoup de préfixes en français comme « bi » qui signifie « deux », comme dans « bicyclette »,« bipolaire », »,« bisexuel ». On a aussi « des » qui indique l'action d'inverser, comme dans défaire, déranger, déconstruire, décolonisation. Sur aussi, en préfixe, qui indique l'idée de trop, comme dans surconsommation, surchargé, surestimé, surtaxé, etc.
Mais du coup, le pré de préfixe, c'est lui-même un préfixe ? Waouh !
Alors oui, pré, ça signifie avant, comme dans précommander ou revoir. Pré-revoir, pardon.
C'est vrai qu'on a du mal à voir les affixes en fait quand on utilise ces mots. On est tellement habitué à les utiliser qu'on ne voit plus les petits bouts de mots justement qui les constituent.
Et du coup, là on a parlé des préfixes, mais ça marche aussi avec les suffixes.
Alors oui, c'est un processus en morphologie qui s'appelle la suffixation. Donc c'est le processus miroir de la préfixation, parce que le suffixe va s'ajouter à la fin du mot, ce qui donne des mots comme ringardisme, dinguerie, nullissime. C'est le même principe que pour les préfixes, sauf que cette fois, ça va changer la classe grammaticale du mot, dans certains cas. On a par exemple le suffixe « âge » qui désigne une action, qui transforme les mots en nom. Comme, qu'est-ce que vous pourriez me définir ? Bavardage, par exemple ?
Ouais, qui vient de bavard. Ouais. Donc bavard, c'est un adjectif, mais bavardage, c'est un nom, pour le coup.
Ou alors balayage.
Qui vient du verbe balayer.
Ouais.
On a aussi des suffixes qui créent des verbes. Donc on a alcool, qui devient alcoolisé, ou moderne, qui donne moderniser, grâce justement au suffixe isé.
Ouais, donc en fait, on en utilise extrêmement souvent des suffixes quasiment à chaque mot quand on y regarde de près.
Et oui, il y a certains suffixes qui apportent une information supplémentaire, comme « ist » qui indique qu'il s'agit d'un métier, comme dans « secouriste »,« dentiste »,« linguiste ». Mais il indique plutôt l'appartenance à un courant artistique ou politique, comme dans « expressionniste »,« communiste » ou « anarchiste ».
On utilise aussi, par exemple, le suffixe « issime » pour intensifier un mot, comme dans, au hasard, « Délit de langue est une émission génialissime ». Voilà.
Je n'aurais pas dit mieux.
Donc, le fait de rajouter un préfixe ou un suffixe, on appelle ça la dérivation. On peut donc dire, par exemple, que le mot « apprentissage » est dérivé de « apprendre ». Et parfois, et même souvent, on ajoute des affixes à des mots qui en possèdent déjà. Donc, par exemple, à partir de forme, on peut créer former, déformer, déformation ou déformationnel. C'est quasi infini.
Et on se retrouve parfois avec des mots à rallonge, comme anticonstitutionnellement, basé sur constitution plus un préfixe et deux suffixes.
Ou alors intergouvernementalisation, avec un préfixe et trois suffixes, je gagne.
Il est très fort.
Mais bon, voilà, quand on ajoute les affixes en même temps, on appelle ça une dérivation parasynthétique.
À tes souhaits.
C'est comme dans enjolivé, qui est dérivé à partir de joli.
Et donc, il y a deux affixes. Il y a le préfixe en et le suffixe et.
V. Non, v. Qu'on, v rajoute, ouais. Qu'on rajoute autour de joli. Donc, en fait, ouais, y a énormément de possibilités qui sont rendus disponibles par les préfixes et les suffixes. On peut créer énormément de mots à partir de juste un seul.
Et encore, c'est pas fini. Ça, c'était pour les cas où on rajoute ou on supprime des affixes. Mais on peut très bien combiner des mots entiers. On appelle ça les mots-valises. C'est quand on prend un mot et à la fin, on en prend un autre.
Ah oui, comme adolescent, mélange de adulte et adolescent, c'est ça ?
Ouais, exactement. On a aussi le mot franglais ou encore Brexit. De Britain et Exit.
Ou wow, l'accent.
Ou alors, on peut aussi dire une démocrature.
Oh.
Pour les démocraties qui se font passer pour des dictatures ou l'inverse, à bon entendeur.
Ça ouais, existe voilà. L'inverse.
Non, mais si, ça existe, ouais.
Les démocraties qui sont passées pour des dictatures.
Donc voilà, l'idée du mot valise, c'est de fusionner les deux mots, mais parfois, on les met juste l'un à côté de l'autre. Donc on appelle ça la composition. Par exemple, je peux prendre l'exemple de lave-linge ou même porte-manteau ou pince-nez, croque-mitaine.
Il arrive aussi qu'on combine pas des mots français mais directement des racines grecques ou latines. On appelle ça les compositions savantes. Bah, c'est le cas d'ailleurs pour le mot néologisme, du grec néo, nouveau, et logos, la parole, le mot. Forcément, avec du grec ou du latin, ça fait un peu plus classe. Et on se retrouve avec parfois des composés humoristiques qui reprennent ce mécanisme, comme par exemple capillotracté, qui veut dire littéralement tiré par les cheveux, ou encore orchidoclaste, hein, ça c'est mon préféré.
Ah là là.
J'arrive pas à comprendre, ça veut dire quoi ?
Alors orchidoclaste, tu prends le mot iconoclaste, qui veut dire briseur d'icônes.
Ok, donc briseur d'orchidées ?
Pas tout à fait. En fait, en grec, les orchidées s'appellent comme ça parce qu'elles font penser à des... On peut dire ça sur la radio ? Des testicules.
Oui, va bien falloir.
D'accord.
Mais oui, orchidoclaste, c'est vraiment juste une manière élégante pour dire casse-couille.
C'est plutôt bon à savoir avec les fêtes qui arrivent. Si vous devez passer du temps avec des gens que vous n'aimez pas, vous savez maintenant comment le leur signifier en toute élégance.
Ah, c'est beau les néologismes.
Oui, bah, créer des mots en les combinant ou en les dérivant, ça permet finalement d'exprimer plein de nouvelles choses.
Oui, et l'apparition de nouveaux mots, ça peut aussi avoir pour origine un besoin d'économie. On en parlait dans la dernière émission avec le fait que justement, on enlève le « ne » dans les phrases négatives. Et bien justement là, c'est un peu pareil. Dans les néologismes, il y a parfois des fois où on enlève des syllabes parce qu'on n'en a pas besoin. Et c'est de l'économie. Donc on a des parties de mots qui s'en vont parce qu'on garde que les parties les plus fréquentes, les plus courantes.
Mais c'est pas du néologisme d'enlever des syllabes, c'est juste de la flemme.
C'est ce que dirait l'Académie française.
Oui. Oh mon Dieu.
En fait, c'est vraiment un phénomène qu'on peut classer dans les néologismes. Donc, parce que ces mots nouveaux, ils peuvent avoir un sens légèrement différent du mot initial. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la troncation. C'est le fait de couper. Ça consiste juste à raccourcir un mot de une ou plusieurs syllabes. on peut avoir des coupures qui se retrouvent dans différentes parties du mot. Donc, par exemple, on peut enlever le début. On peut dire blême au lieu de problème. On peut dire tain au lieu de putain. Ou alors, on peut enlever le milieu d'un mot. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Comme par exemple, on peut dire monsieur ou mamzelle. Mais ça donne rarement des mots à part entière. C'est souvent juste des raccourcis à l'oral et qui ne s'implantent pas vraiment dans le vocabulaire. Et puis ensuite, celles qui sont très courantes, qu'on connaît beaucoup, c'est par exemple celles qui coupent la fin du mot. Donc par exemple, ciné, resto, métro, dodo. Ah non, pas dodo.
Mais dans ce cas-là, ça a le même sens que le mot de base. C'est pas un néologisme, c'est juste un raccourci.
Dans certains cas, ça peut. Dans certains cas, ça l'est. Le mot, il peut évoluer en sens. Par exemple, si on prend le mot charognard, ça a donné charo en enlevant la fin. Mais aujourd'hui, dans le langage, en tout cas de notre génération, ça ne désigne plus vraiment un oiseau carnivore. Ça désigne un coureur de jupons. Donc,
actually, charognard, c'est pas.
Il y a vraiment un changement de sens qui se fait en même temps.
Ouais.
Donc oui, en fait, cette troncation, donc cette coupure qu'on fait dans le mot. Quand on l'a fait à la fin, ça s'appelle une apocope. Et elle peut aussi s'appliquer dans des expressions comme un petit déj pour petit déjeuner ou à plus pour à plus tard. Dans tous les cas, on enlève les dernières syllabes parce que les premières sont suffisantes pour faire comprendre de quoi on parle.
Et un peu dans le même style, il y a aussi les sigles et les acronymes qui servent à raccourcir une expression en prenant la première lettre de chaque mot.
Donc pour rappel, la différence entre... les deux, c'est que l'acronyme, il se prononce comme un mot normal, entre guillemets, comme SAMU ou UNESCO, alors que pour le sigle, on prononce chaque lettre une à une, genre SNCF.
En même temps, SNUFS, c'est un peu difficile à prononcer.
Mais c'est pas faux.
Donc la siglaison, c'est le fait de créer des sigles et des acronymes. On la retrouve surtout dans la langue administrative. Donc l'université a mis au point, par exemple, les UE pour les unités d'enseignement, mais on en trouve aussi plein d'autres... TVA, RIB, HLM, SMIC, CAF, CROUS, enfin voilà.
Il y en a attends. Le CROUS, c'est un acronyme ?
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires.
D'accord, on en apprend tous les jours.
Et oui.
On est sur des lits de langue.
Et il y en a un autre domaine dans lequel il y en a beaucoup, c'est le monde du travail. On n'y fait même plus attention quand c'est passé dans le langage courant. Par exemple, on dit un PDG, le RH, les RTT. En informatique, on peut dire une URL, un PDF, un VPN. On peut parler de son ORL qui a fait un AVC et qui ensuite elle est en EHPAD.
Ouais, maman, voilà. Si tu m'écoutes. Ah bah non, du coup.
Aïe, aïe, aïe. Les acronymes, ils sont vraiment partout, en fait. Genre, on en retrouve dans tous les domaines. Ça sert à désigner quasiment n'importe quoi. Même chaque mot peut avoir son équivalent en acronyme, en fait, dans certains milieux.
C'est vrai, et puis surtout, on les retrouve dans énormément de domaines, en fait. Par exemple, les littéraires, ils utilisent parfois l'acronyme PAL, pour dire pile à lire. Et cette fameuse pile de bouquins qui s'accumule sur la table de chevet, par exemple. J'ai même croisé une fois la HAL, donc Himalaya à lire. Bon, là, c'est vraiment pour les très, très grandes piles.
Et même notre génération se sert beaucoup des acronymes. Le classique BG, hein, pour parler d'un beau gosse, qu'on utilise à toutes les sauces, ou PGM pour pro-gamer. Hein. LOL, MDR, qui sont souvent utilisés avec ironie. On trouve aussi OSEF, littéralement on s'en fout, ou OKLM, au calme, et bien d'autres.
Oui, et puis à côté des acronymes, il y a aussi les rétro-acronymes. C'est quand on fait comme si un mot était un acronyme, en lui inventant une signification. Donc, par exemple, certains voient le mot « bref » comme un acronyme de « bon, revenons-en au fait », alors que le mot vient du latin « brevus ». Ou alors, quand on donne une nouvelle interprétation au mot « fac », donc « frequently FAQ ».
Ouais.
Ok.
Sur les forums, enfin sur les sites internet, des fois on voit « FAQ », donc ça vient de l'anglais « frequently asked questions » à la base, donc les questions fréquemment posées. Mais nous, du coup, on l'a francisé en « foire aux questions
». Et un dernier mécanisme classique de construction de nouveaux mots, et qui est assez intéressant, c'est pas vraiment une construction de nouveaux mots, mais c'est ce qu'on appelle le glissement sémantique. Donc les glissements sémantiques, ça fait très pompeux, mais en fait, ça veut juste dire que le mot n'a plus son sens de base. Il veut dire la même chose. Il ne veut plus dire la même chose et son sens évolue.
Il nous faut des exemples pour mieux comprendre, peut-être.
Oui, bien sûr. Et ben, le mot viral, par exemple, ou virus, à l'origine, ça faisait référence à quelque chose qui était, qui était lié à un phénomène biologique ou donc au contexte médical, mais avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, viral, ça a été utilisé pour décrire du contenu qui se propage rapidement sur Internet, par métaphore avec la propagation d'un virus, ou même on utilise le terme virus aussi en informatique. On a juste appliqué une nouvelle signification à ce terme.
Il y a le mot troll aussi. À la base, c'est une espèce de grand bonhomme, une créature mythologique qui est pas très belle et qui mange des chats. Et ben avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, le mot a évolué pour désigner une personne qui provoque des disputes et des perturbations en ligne exprès pour faire chier son monde. Ça peut être aussi une personne qui se cache sous une fausse identité sur Internet.
Exactement. Et on a aussi plein d'autres mots, comme tagada, qui veut dire du shit dans des banlieues, ou brocoli pour la tête de cannabis. Il y a même PLS, qui signifie position latérale de sécurité. Donc c'est un sigle.
Et encore, ça fait beaucoup là, non ?
Puis chez les jeunes, on a par exemple PLS pour dire situation de mal-être ou de difficulté, pour enfin être utilisé par la génération Z pour dire qu'ils sont morts de rire. Donc on a trop d'autres exemples comme le mot aigri qui signifiait avant rendu aigre, amer par la vie et ses déceptions. Mais il a été repris et réapproprié par notre génération sous un sens un peu plus différent. Donc quelqu'un d'aigri, c'est juste quelqu'un de désagréable et d'antipathique.
Ou tout simplement de mauvaise humeur. On a aussi le mot vulgaire bordel qui désignait une maison close, mais qui maintenant désigne presque toujours une situation chaotique, ce grand désordre ou juste compliqué.
Et un dernier exemple pour couronner le tout, le mot amateur, donc, qui aujourd'hui signifie à l'origine une personne qui pratique une activité par passion, sans but lucratif, mais aujourd'hui on l'utilise parfois aussi pour désigner quelqu'un qui manque de compétences ou de professionnalisme.
Comme quoi, énormément de mots ont un double sens.
Tout à fait. Le glissement sémantique, donc le changement de sens d'un mot, il est extrêmement fréquent dans la langue, il est même omniprésent. Je vous mets au défi de trouver un seul mot qui n'a qu'un seul et unique sens, même en cherchant bien. À part quelques termes très techniques peut-être, vous en trouverez extrêmement peu. Et c'est aussi ça la puissance de la langue. Non seulement on a plein de mots pour dire presque la même chose, mais un mot lui-même, selon le contexte, peut désigner beaucoup de trucs différents. Or ça permet de s'exprimer avec plus de précision, de jongler entre les mots, de sous-entendre, de faire croire, bref, la langue devient un vrai jeu. Mais parfois, c'est pas pour mieux s'exprimer qu'on fait des néologismes, mais au contraire pour qu'on ne comprenne pas ce qu'on dit. C'est le cas du verlan, par exemple, dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler. C'est un exemple très connu de langue cryptée, dont l'origine est un peu floue. Ça serait apparu dans le milieu carcéral au XIXe siècle, puis ça s'est répandu dans le langage populaire pour rendre un message incompréhensible aux non-initiés.
Le verlan, ça consiste en gros à inverser les syllabes d'un mot. Donc louche, ça donne chelou, moche, ça donne chum, merci pour cimer, et on a le mot turfu pour futur.
Le verlan, il a une très grande influence sur notre lexique, parce que son concept, c'est très simple, donc facile à appliquer.
Parfois, il y a quand même quelques subtilités. Par exemple, pour mettre des mots d'une seule syllabe en verlan, on doit créer artificiellement une deuxième. Mec qui fait une seule syllabe doit être transformé en mais que pour donner que mais, qui ensuite est abrégé en cum. Donc d'ailleurs, il se passe la même chose pour femme, qu'on transforme en femme pour donner me fa, et ensuite le a tombe et meuf.
Et des fois, un mot qui a été déjà verlanisé est re-verlanisé. Par exemple, pour reprendre meuf, on a à nouveau inversé les syllabes. On est passé de meuf, femme. Bon, ça reste quand même assez rare, on va pas se mentir. Et ça reste chelou.
Donc le verlan, c'est pas à proprement parler un néologisme, hein, c'est plutôt une procédure, un mode d'emploi en fait, pour créer des nouveaux mots. Sa force, c'est qu'on peut l'appliquer à n'importe quoi. On pourrait très bien dire, je sais pas, elno pour Noël, en inversant les syllabes.
Wow.
Donc ça, on appelle ça une violation systématique du code.
Waouh, le nom fait froid dans le dos.
Ouais, là on comprend pourquoi on s'appelle délit de langue. Mais derrière ce nom qui fait un peu penser à une garde à vue, il y a juste le principe d'avoir une recette, un mode d'emploi qu'on applique systématiquement à la langue en suivant des règles précises. Sauf que le verlan, c'est pas le seul système de ce genre. On peut aussi citer le louchébem.
Le louché quoi ?
Eh bien, ça m'étonne pas que tu connaisses pas, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le sujet, mais en gros, c'est le langage secret des bouchers des Halles de Paris au XIXe siècle, qui avait trouvé le moyen de se plaindre et d'insulter les clients casse-pieds sans que ces derniers puissent les comprendre.
Et est-ce que tu as trouvé du coup comment ça marchait ?
Yep. Je vous préviens, c'est un peu plus technique, par exemple, que le verlan. Donc prenons un mot comme le mot boucher. Donc tu prends là où les premières lettres, les premières consonnes en l'occurrence du mot, et tu les déplaces à la fin.
Donc ça fait Oucheb ?
Oucheb, exactement. Maintenant, tu rajoutes un L au début du mot.
Loucheb.
Yep. Et enfin, tu rajoutes le suffixe M.
Louchebem.
Waouh.
C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Incroyable.
Tu as l'air tellement convaincu, mais Baptiste, c'est génial.
C'est toujours le suffixe M qu'on ajoute à la fin.
Alors non, il y a plusieurs suffixes. M, c'est le plus fréquent, mais on trouve aussi I, Oc, Uche, enfin d'autres trucs comme ça. Un autre exemple avec le mot jargon. Sohan, tu le tentes ?
Allez, donc je déplace le début à la fin. Argonge, je rajoute le L, l'argonge, et je mets un suffixe.
En l'occurrence, c'est le I.
L'argongie. Ouais, c'est impressionnant. On ne connaît plus du tout le mot de départ.
Yep.
Mais le louchébem, il n'a pas laissé de mots dans le vocabulaire français ?
Alors, pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que le verlan. Mais il en a quand même laissé un que vous connaissez tous. Donc, prenez le mot fou. Donc, on inverse, on met le début à la fin, ouf. Ça, c'est comme le verlan, pour le coup. On rajoute le L, louf, et on met un suffixe. Là, en l'occurrence, c'est le suffixe oc.
Donc, loufoque, ça vient de là.
Eh oui, loufoque vient du louchébem.
C'est vraiment loufoque, tout ça.
Là, on vous a donné beaucoup d'infos sur les différents processus.
C'est vrai qu'on est un peu bombardés.
Mais on va se relaxer un peu. pour résumer... Pour fabriquer des nouveaux mots, on a plusieurs processus. On a la dérivation, en ajoutant des préfixes et des suffixes. Les mots-valises, on fusionne les mots ensemble. La composition savante, on prend des racines grecques, latines. On peut aussi couper, faire des sigles. Et enfin, il y a les glissements sémantiques. Et puis ensuite, il y a d'autres processus qui permettent de créer. Donc les violations systématiques du code, donc le louchebem ou alors le verlan. Donc ça, c'est les plus classiques. Mais il y a aussi une autre source de nouveaux mots qui est... assez surprenante, c'est les emprunts. On n'y pense pas toujours. Mais Sohan vous en parlera après. D'abord, on se relaxe avec une petite musique, puisqu'on écoute La Tristitude de Old Laugh, un beau néologisme.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand, quand un copain t'appelle pour son déménagement, et ça fait mal, la tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août, quand tu dois aller vivre à Nogent le retrouve, quand ton coiffeur t'apprend. T'as des reflets roux et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude. C'est quand t'es choisi pour être gardien au handball, quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles, quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal, et ça fait chier. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego, c'est quand lors d'un voyage en Inde de l'eau, quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo, et ça fait mal, 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 mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la crâne à la voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous. La vie qui te dit que ça ne va pas du tout.
La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste, mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans le crâne à moi. La tristitude, c'est c'est wouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, 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 la tristitude, la tristitude, la tristitude te donne la tristitude, la tristitude te donne la tristitude, la tristitude.
Écoutez Délit de langue sur Prune.
Nous sommes de retour sur Délit de langue sur Prune. Nous vient d'écouter La tristitude de Holdelaf. Tristitude, c'est un beau néologisme qui utilise la dérivation. Mais les nouveaux mots de la langue, ça peut aussi être des emprunts, comme on avait dit.
Tout à fait. Il y a énormément de mots qu'on utilise tous les jours qui sont en réalité d'autres langues et qu'on remarque même plus. Par exemple, redingote, qui fait très pompeux, très bourge du 19e, bah, ça vient de l'anglais, riding coat, qui veut dire veste d'équitation. Il y en a plein des mots, par exemple, qui viennent de l'arabe, dans ce cas, qui ont été empruntés entre le Moyen-Âge et la Renaissance, comme jupe, qui vient de l'italien jubba, lui-même venant de l'arabe jobba, ou abricot. Il est très marrant celui-là, il faut que je fasse un petit tour historique. D'abord, on avait praecocum, en latin, empruntant gréco-ancien sous la forme praecocion, ensuite qui passe à l'arabe barcouk, avec la forme déterminée albarcouc, littéralement le abricot, qui est emprunté en espagnol sous la forme albaricoque, devenant albercoque en catalan et devenant enfin abricot en français. On a vraiment fait un énorme détour de 2000 ans pour avoir l'abricot. On aurait pu avoir précoque, tout simplement, si on avait fait au plus court.
Tout ça pour vous dire que dans l'histoire, le français a emprunté des mots aux langues avec qui il était en contact. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut emprunter des mots à une autre langue. Ça peut être parce que cette langue est prestigieuse, parce que c'est la langue des gens avec qui on commerce, ou parce que parmi les gens qui parlent notre langue, bah, certains sont bilingues et ils font passer des mots d'une langue à l'autre.
Et c'était quoi les langues prestigieuses qui ont donné des mots aux Français ?
Bah, à la Renaissance, c'était surtout le toscan, l'ancêtre de l'italien qui avait la côte, parce que c'était la langue de la culture et du raffinement par excellence. Donc on leur empruntait plein de mots qui sont restés encore aujourd'hui, comme cavalier, rocambolesque ou burlesque, ou plein d'autres mots en esque. L'arabe aussi, comme on l'a vu, nous a donné plein de mots jusqu'à la fin du Moyen-Âge, parce que c'était la langue des sciences et des arts à l'époque, et que c'était en contact direct avec les royaumes chrétiens par l'appellation ibérique. Et depuis le Moyen-Âge, on emprunte plein de mots en latin, parce que ça fait stylé.
T'as aussi parlé, Baptiste, des échanges commerciaux qui ont apporté leurs mots au français. Mais en l'occurrence, c'est plutôt l'anglais qui domine les marchés, non ?
Oui, oui, aujourd'hui, oui, c'est clairement l'anglais. Bah, la culture anglo-américaine est complètement omniprésente dans le commerce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout depuis les années 90 et la fin de l'URSS. Et donc, comme la langue anglaise est en contact direct avec le français pour des raisons culturelles et commerciales, bah, on leur pique plein de mots.
Et les anglicismes dans tout ça ? hein, ceux qui envahissent le français et le dénaturent au profit de l'impérialisme américain.
Tout doux, papy Réa, calme-toi, prends tes cachets, d'accord? Plus sérieusement, parmi tous les termes qu'on classe parmi les anglicismes, on peut en distinguer trois types. Ceux qui viennent vraiment de l'anglais, comme redingote, dont on parlait avant, paquebot, qui vient de l'anglais packet boat, weekend, emprunté en 1926, bordel, c'est presque 100 ans, et d'autres expressions comme mainstream, made in, n'importe quel pays qu'un accent américain, top 1, GG, easter egg, speedrun, et tous les termes issus des jeux vidéo, mais on va pas en parler parce que ça mériterait un épisode en entier.
C'est clair.
Bah, ce serait une bonne idée en vrai, l'impact linguistique dans les jeux vidéo pour une prochaine émission.
Ouais, carrément, ça peut être sympa. On se note ça. En plus, on a les termes empruntés à l'anglais mais qui viennent à l'origine du français, ou plutôt de l'ancien français dans sa variété anglo-normande, comme canvas qui vient de l'ancien français canvas, qui a donné cannabis, ou management et manager, etc., qui vient de manager en ancien français, donc toujours dérivé de main. Et donc tout ce qui a donné manœuvre, manier, etc. Encore spoil qui vient de spolier. Ou custom, qui vient de costume, qui a donné coutume en français. Ou stress, qui vient de déstress, et donc qui a donné détresse en français.
C'est marrant parce que maintenant, déstress, c'est le contraire de stress.
Ouais, j'avoue, c'est marrant. Enfin, on a les anglicismes qui, en réalité, n'en sont pas vraiment, ou plutôt qui sont des constructions, des usages qui font anglais, mais qui sont spécifiques à la francophonie, comme babyfoot, qui se dit plutôt table football en anglais.
Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en allemand, ils n'ont pas de terme spécifique, enfin, ils ont justement traduit, ils disent Tischfußball, donc littéralement le foot de table. Donc ils ont bien gardé l'équivalent.
On n'a pas vraiment d'explication à babyfoot. Peut-être qu'on s'imaginait que c'était une sorte de foot moins violent pour les gosses.
Mmh. Pourtant, je peux te dire que quand je joue au babyfoot, c'est tout sauf pour les enfants. Je joue mon âme à ce jeu. Mais vraiment.
Ouais. C'était pas la question, je pense.
Non, mais ceux qui ont joué avec moi, ils savent de quoi je parle. Bref, je dis vague.
Vague.
Bref, donc des pseudo-anglicismes, on a aussi playback, finger in the nose, qui est vraiment un calque de l'expression les doigts dans le nez et qui ne serait absolument pas comprise par le moindre anglophone. Ainsi que running, shopping, camping, zapping, binge-washing, binge-drinking, forcing, clapping, aquaplaning, bronzing, des dizaines d'autres mots en ing.
Ce suffixe est d'ailleurs très productif aujourd'hui en français. On peut prendre n'importe quel mot et on lui colle « ing » et pouf, ça fait un mot anglais. C'est dingue.
Et du coup, on pourrait parler de mon préféré, les emprunts qui sont dus aux langues parlées par les francophones, autres que le français du coup.
Bah, on en retrouve notamment dans les langues parlées par les populations immigrées comme l'arabe ou des langues spécifiques des communautés comme le romani, la langue des Roms.
Donc l'arabe est de nouveau une langue dans laquelle on apporte beaucoup de mots, mais pas pour la même raison qu'au Moyen-Âge.
Mmh. Exactement. Par exemple, on a le très connu « wesh » qui vient de l'arabe algérien « washrak » qui veut dire « comment ça va ».
Mais « wesh », il a plusieurs sens.
Oui, tout à fait. On a le sens, enfin, on a plutôt des utilisations particulières de « wesh ». On a l'étonnement, exemple « wesh, tu m'as fait flipper ». L'agacement, « wesh, je t'abuse frère ». Ou encore la salutation, c'est la plus connue. « Wesh bro, bien ou bien ?»
Bien.
Eh ben, ça tombe bien. On a aussi Psahtek qui vient de Bisahtek, littéralement à ta santé, qui sert aussi de félicitation, ou encore les invocations divines, Wallah, Alhamdulillah, Inch'Allah, le mot Ruya, ami, prononcé Roya par les Babtous fragiles, qui est très connu aussi, il y a Toubib, médecin. Et c'est très marrant parce que l'arabe Toubib, enfin, du coup le mot Toubib en arabe, a donné Toubabou en Bambara. Ce qui a donné Toubab en français, et donc son verlan Babtou, parce que les médecins à l'époque c'était les Arabes du coup, et quand les Français ont colonisé la zone, le terme Toubab a servi à les désigner, parce que par extension ils étaient aussi clairs de peau.
Et du coup on peut parler peut-être aussi du romani, qui a donné beaucoup de mots en français. Donc on a certains mots comme Gadjo ou Gadji, qui à la base désignent les noms donné par les Roms aux personnes extérieures.
Ceux qui ne sont pas gitans.
Ouais. Ou alors on a suriné, qui vient de churi, qui veut dire le couteau. Lové, l'argent. Naz, qui avant se prononçait nazi, qui vient de nasul, qui veut dire mal.
Comme par hasard.
On a aussi un peu plus vulgaire, boule, qui veut dire au sens de fesse, qui vient du mot qui voulait dire un anus. Alors oui, ça a changé de sens, mais l'idée est la même. Et puis il y a aussi, quand on dit baron de la drogue, quand on dit baron dans ce sens-là, ça vient pas du tout de ce qu'on peut penser de baron au sens de noble, mais ça vient de baro, en romanie, qui veut dire grand, formidable. Et puis il y a aussi beaucoup de verbes qui sont reconnaissables, ceux qui finissent en ave, qui viennent du romani, bicrave pour dire vendre, poucave pour dénoncer, bouillave, chourave, marave, enfin voilà. Chourave d'ailleurs, ça vient de chorel, alors que churi a donné surine. Enfin voilà, donc c'est un peu bizarre. Mais donc tous ces verbes, à part suriner, finissent en ave, de base c'est la terminaison de la première personne du singulier au présent de l'indicatif, donc un peu comme les verbes en latin, en grec ancien, etc.
Il y a aussi pas mal de mots qu'on a empruntés à d'autres pays francophones, notamment les anciennes colonies de la France, les Antilles ou en Afrique.
Ouais, tout à fait. On a le mot bail, par exemple, dont le pluriel est bail, au sens de ragot, de rumeur ou d'affaire, qui nous vient de l'haïtien bagay, qui veut dire chose. Par exemple, tu connais les bails, comme on dit chez moi. À ne pas confondre avec le bail, dont le pluriel est beau, ce qui est des baux immobiliers, par exemple, qui vient du verbe bailler, qui veut dire signer un contrat, comme dans la phrase « Hier, j'ai signé un bail place du cirque et deux baux près de Beaulieu ». On a aussi boug, qui vient du créole antillais boug, lui-même venant du français bougre. En Afrique francophone, on a surtout des termes et des expressions venues de la Côte d'Ivoire, comme sanjaillé ou bangala, instrument droit charnu servant entre autres à pratiquer la concupiscence, qui vient du portugais cana de bangala, qui veut dire canne de bambou. Voilà, maintenant vous avez l'image. Non, non, c'est pas, c'était un plaisir.
Merci Sohan, on adore quand tu parles du portugais.
J'en parle à chaque émission, on dirait, du portugais, c'est marrant. Évidemment, même si on en parlera plus tard, il y a également des tentatives pour remplacer les anglicismes, entre autres par des termes bien chez nous. Mais bon, c'est souvent sans succès, comme relate, qu'on devrait remplacer normalement par compatir, mais qui n'a pas du tout la même valeur, ou poker face, qu'on devrait remplacer par rester impassible, mais c'est pas assez précis, puisqu'on utilise poker face dans un contexte bien précis, celui des jeux normal d'habitude. Mais si on emprunte ces mots, c'est que ce sont des concepts qui n'ont pas de base d'équivalent dans notre langue. Et chercher un équivalent bien de chez nous, ça ne sert à rien, parce que ça n'aura jamais la même valeur d'utilisation, sauf s'il est imposé avant la démocratisation de ce concept, comme ordinateur. C'est à peu près le seul contre-exemple, en fait.
Et parce qu'à la base, ordinateur, on le disait computer, à la base.
Enfin, oui, computer, ça dépend des gens, mais ouais, mm-hmm. C'est comme ça à l'époque, ouais, genre dans les années... 60, je crois.
Et du coup, c'est-à-dire que dans d'autres langues, ils ont pris le terme anglais ?
C'est ça, en italien, ils disent computer, par exemple.
Et en espagnol, latino-américain aussi, on dit computadora, alors qu'en espagnol d'Espagne, on dit ordenador. Donc on a repris le terme français, en l'occurrence. Mais bref, du coup, avec les anglicismes, on assiste à la création d'une nouvelle classe de verbes. On passe un peu du coq à l'âne, mais vous allez voir, c'est marrant, qu'on pourra appeler les inconjugables ou les invariables.
Oui, c'est vrai, c'est... En fait, c'est tous ces nouveaux verbes qui sont pas, qu'on ne peut pas conjuguer, en fait. Par exemple, le verbe pécho.
Mais pécho, ce n'est pas un anglicisme.
En fait, il y a plein de mots verlanisés qui vont servir de verbes, parce qu'à la base, ce sont des verbes, mais du coup, qui ne pourront pas être conjugués. Et c'est aussi le cas des emprunts, du moins au début. Par exemple, Dina, conjugue le verbe pécho au présent de l'indicatif, s'il te plaît.
Je pécho, tu pécho, et le pécho nous... Pécho-t-on.
Voilà, c'est un verbe qu'on ne peut pas vraiment conjuguer. Ça s'écrit une nouvelle classe de verbes néologiques, ceux qui viennent d'une dérivation comme théma, pécho, carotte ou ken.
Carotte,
c'est-à-dire bah, genre, carotte quelqu'un, le mec, je l'ai carotte.
Ah oui, ok, c'est plus clair.
C'est plus clair tout à coup.
Mais la principale source des verbes invariables, ça reste les emprunts qui sont récents. Relate, call, qui viennent de l'anglais. Les verbes en ave, qui viennent du romani, poucave, bicrave et bien d'autres. D'autres verbes aussi, comme kayako, bémé. Tout ça, on ne les conjugue pas. Et ça, c'est parmi le fait que les formes les plus utilisées à l'oral sont toutes identiques. C'est-à-dire les trois premières personnes du singulier et la troisième du pluriel au présent de l'indicatif. Et la deuxième personne de l'impératif. Tout ça, c'est devenu complètement homophone. Et donc, ça permet d'avoir des verbes qui ne se conjuguent pas. Parce que justement, est utilisé principalement à l'oral. Et par analogie, on va les garder identiques à l'infinitif et au participe passé. Par exemple, on m'a dit, lui, je le bouillave direct, il s'est fait carotte, il n'y a que moi qui l'a kayako bémé.
Donc, ces nouveaux mots qui enrichissent notre langue, vous devez commencer à le sentir. Ce n'est pas juste le fruit de l'imagination de linguistes ou de grandes personnalités de la littérature. En vrai, chaque locuteur et chaque locutrice de la langue française contribue à cette dynamique linguistique. Parce que la majorité des néologismes émergent dans des contextes lambda, dans la vie de tous les jours, grâce à nos discussions entre amis, proches ou collègues, mais restent quasi tout le temps pas relevés par les spécialistes. Du coup, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on est légitime à néologiser alors que on n'est pas des bons chics, bons genres dans une instance reconnue. Bah, d'un côté, il y a les grands auteurs, ceux qui créent des mots et qui, bien évidemment, sont reconnus et célébrés dans les cercles littéraires et académiques. Et d'un autre côté, il y a vous et moi, les gens du peuple, qui, sans l'autorisation d'une institution, créons la langue au gré de nos besoins et de nos expériences, ou même de nos délires entre potes. Et bah, cette dualité, elle souligne que la création de mots n'est pas réservée à une élite, mais elle est une pratique démocratique et vivante. Elle est ancrée dans notre quotidien, de tous les locuteurs, et nous en avons le droit, parce que c'est aussi notre langue. Donc la langue française, elle est le reflet de son temps, elle évolue grâce à l'apport et à l'inventivité de chacun, que ce soit un écrivain ou un simple citoyen en fait. Donc les mots sont notre création, qu'ils soient issus de la littérature ou du parler populaire, et ils participent à la richesse et à la diversité de notre langue.
Exactement, c'est très bien dit. Et pour appuyer ce point, avant d'entrer plutôt dans le détail de qui crée des néologismes, en fait, c'est ça qu'on va se demander, nous allons écouter une petite musique que vous connaissez certainement, ou en tout cas dont la mélodie va vous rappeler quelque chose, puisque c'est une reprise de Renaud, une reprise par...
Erwan. Donc il s'agit de Lâche l'affaire de Erwan. C'est une reprise de la chanson Laisse béton de Renaud, qui est très riche en emprunts, néologismes et autres amusements. Donc on va vous laisser avec cette musique avant d'aborder la suite.
J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, shorté d'un rad à la ramasse, le type a surgi dans la place sur un scooter façon Mad Max. Puis il s'est approché de moi, on m'a le regard, je le sentais pas. À le trois quarts, ma caille, c'est pour les sky. Moi je me les gèle sur mon booster, avec ça je serais un vrai rappeur. Alors ma gueule, tu la ramènes, je vais t'apprendre à jouer à Tekken. File-moi ton cuir, je suis trop vénère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a mis un look kick. J'ai esquivé, sourire, m'a enchaîné, retourné, je lui ai filé mon cuir. J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, sortais d'un rad, bouffé un grec, le type a surgi sur le boulevard. Dans un coupé, il était pas net, puis il s'est approché de moi, combat de regard, je le sentais pas. Wesh, wesh, gosse beau, t'as sorti le fut à la cigale, c'est trop de la balle. Regarde comme il craint mon baggy, avec le tien j'serais un vrai MC. Viens faire un tour dans ma merco, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un braco. Tu sais je suis croque de ton streetwear, moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Tu m'as fait une balayette, je lui ai mis un frontal, t'as enchaîné coup de tête, je lui ai filé mon futal. J'étais à la fraîche, je me faisais zizir, je buvais ma Rubix dans le RER. Les lascars ont surgi dans le wagon, ils étaient 15, c'était pas bon. Puis le plus stockman s'approche de moi, combat de regard, je le sentais pas. Matt le Kidam, il a les Air Max à Jordan. Alors blanc bec, t'aimes le basket? Bah on va wesh à ma façon, je vais juste un peu changer les règles. On est les joueurs, toi t'es le ballon, file-nous tes pompes, enculé de ta mère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. M'ont mis deux, trois queues là. J'ai fait, ah ouais les mecs, j'ont sorti un pushka, j'ai filé mes baskets. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, il faut mieux rester dans les bars, surtout quand tu commences à boire. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil en chaussettes, toi barre d'imagination pour inventer un bon remake.
Nous revoilà, on vient d'écouter... Qu'est-ce que c'est que...
Mon Dieu, le son des enfers.
Petite, c'est les joies du direct, comme on dit. Donc on vient d'écouter cette magnifique reprise de Renaud, hein, vous l'aurez reconnu, dans laquelle on peut entendre plein de néologismes. Et c'est des néologismes qui, contrairement à certains nouveaux mots qui apparaissent dans la littérature, sont nés dans des milieux populaires. Et c'est intéressant de voir justement que, oui... Tout le monde peut néologiser, c'est ce qu'on disait à l'instant. Sauf que les institutions officielles, les instances de la langue, ne le voient pas exactement de cet œil-là. On a des organismes en fait, qui sont chargés de créer des mots. Par exemple, au Québec, on a l'Office québécois de la langue française. Donc son rôle, c'est la régulation de la langue française. Il propose assez régulièrement des nouveaux mots, souvent pour contrer les anglicismes d'ailleurs, comme le fameux divulgaché.
Oh mon Dieu, quelle mochitude.
En vrai, chacun ses goûts, mais c'est vraiment pour remplacer l'anglicisme spoilé, qui signifie donc révéler la fin ou les passages croustillants d'un film, d'un livre ou d'une œuvre en général. Donc, qui détruit le plaisir de la découverte pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Par exemple, dire qu'à la fin de Arcane saison 2, il y a...
Faut pas dire...
Il est fou ce mec.
À la fin de nous... Oups, non, vous m'avez confus. Nous, on a aussi ça en France, ça s'appelle la commission d'enrichissement de la langue française.
Encore un nom bien pompeux là.
Mais c'est pas tout, leur mission serait apparemment de créer des néologismes pour préserver la richesse de la langue contre l'envahissement des termes anglais.
Oh mon Dieu.
Ils ont par exemple proposé le mot infox pour remplacer l'expression fake news. Donc vous ne l'avez sûrement jamais entendu de la bouche de quelqu'un,
si.
Et c'est totalement normal.
Ou rarement.
Je l'ai vu dans un jeu, ça, il y a très longtemps.
Personnellement, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Bref. Donc, en fait, ce mot, il a vraiment flop. Parce que, voilà, par exemple, ordinateur, comme on l'avait dit, bah, lui, il a pu s'insérer au lieu de computer. Donc, ça soulève des questions sur le succès et l'acceptation du grand public sur les mots qui sont francisés.
Après les instances officielles, on a une très grande source d'énologismes dans les langues, c'est la littérature évidemment. Pour reprendre cette idée d'anglicisme, parce qu'il y a évidemment plein d'autres, on peut parler de la littérature anglaise et spécifiquement de Shakespeare qui a joué un rôle clé dans l'introduction de néologismes en anglais. On a par exemple le mot « successful » qui est une dérivation de « success » avec le suffixe « full » et qui a été créé par notre cher Willy. Et il a aussi créé le mot « bedroom » qui voulait dire à la base « place dans un lit », puis le sens a évolué avec son temps pour dire « chambre à coucher ». Le langage est adapté aux changements culturels et sociétaux. Shakespeare a aussi popularisé des expressions comme « break the ice » qui veut juste dire « briser la glace », encore utilisée aujourd'hui.
On a notre équivalent français de Shakespeare, Molière bien sûr. Dans ses pièces, il aimait bien triturer la langue, façonner de nouveaux mots. Et dans ses comédies, il mettait un soin particulier à surprendre le public par des trouvailles linguistiques. Certains mots sont restés bien ancrés, mais leur sens a parfois évolué. Par exemple, Molière a utilisé le mot « galère », qui à l'origine désignait un type de bateau propulsé par des rameurs, dans une réplique qui est devenue célèbre, une réplique du personnage Géronte dans « Les fourberies de Scapin », pièce de 1671. Dans cette scène, Géronte, c'est un vieillard avare dont le fils a été capturé sur une galère et qui doit payer sa rançon. Et donc il s'écrie à ce moment-là.
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Et donc à la suite de cette scène, galère, ça ne désigne plus seulement un moyen de transport, mais c'est devenu une métaphore pour une situation difficile et aujourd'hui on emploie l'expression « être dans la galère ».
Donc la littérature, le théâtre, mais aussi la poésie et les arts en général ont nourri la langue et l'ont beaucoup enrichi. Et c'est intéressant d'observer que dès qu'un mot a été forché et utilisé par un grand auteur de la littérature, on l'accepte aussitôt. Alors que la légitimité à faire des néologismes, ce n'est pas du tout la même selon qu'il s'agit d'un auteur reconnu ou d'un parler populaire. Et on voit même parfois des académiciens commencer à s'insurger contre un néologisme atroce né dans la bouche des jeunes, jusqu'à ce qu'on retrouve une utilisation de ce même mot, mais sous la plume d'un grand auteur du XVIIIe siècle. Et tout à coup, c'est presque le plus beau mot de la langue française.
Donc voilà, si on parle d'art, on doit aussi parler de musique, et spécifiquement du rap. On a pu recenser quelques petits mots nouveaux créés par des rappeurs, tous dans les années 2000, jusqu'à aujourd'hui. On peut par exemple parler de Rof avec sa musique dans Mawers. Ma ouais, où je sois, je suis. Laissez-moi rêver. Que des tasses aussi. On lâche tout. Ma ouais, où je sois, je suis. Donc voilà, la ouais, ce serait en fait une bulle, genre laisse-moi dans ma bulle, laisse-moi dans mon monde, quoi. On retrouve ce mot même dans des musiques de Niska quand il parle de la ouais, ouais. Je pourrais vous en citer d'autres, parce que je suis une grande fan de rap, qui soit étiqueté comme dénonciateur ou plus marketing.
On t'écoute.
On a le mot « m'amène » qu'on retrouve énormément dans les paroles de Lorenzo, qui serait juste une francisation de « my man ». Il y a aussi le verbe « schtroumpfer » qui vient de « schtroumpf », mais sans garder le sens parce que ça veut juste dire pratiquer la concupiscence que le rappeur Sofiane a déjà utilisée.
Ouais, bref, parlons du reste, hein, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. On n'a plus tant de temps que ça, d'ailleurs.
Ouais, on est un peu juste en termes de temps.
Donc voilà, on peut dire aussi que les politiciens ils jouent un rôle dans la création de ces nouveaux mots, en créant des mots comme islamo-gauchiste ou éco-terroriste. Ils cherchent à élaborer de nouveaux concepts ou appuyer leur discours avec des mots plus, on va dire, marquants.
Ça fait quand même très novlangue, hein, créer des nouveaux mots pour insuffler des idées politiquement.
Oui,
pas faux. On arrive déjà vers la fin de l'émission. On avait encore quelques petites choses à vous dire, mais il s'avère qu'on n'a plus le temps. Donc voilà, c'est les lois de la radio, comme on dit. Pour conclure, la langue, elle évolue en permanence. Elle est marquée par les mots qu'on y introduit, parfois sans le faire exprès, parfois à dessein, et la légitimité n'est pas la même en fonction de qui crée des mots. C'est un enjeu de pouvoir aussi que de pouvoir créer des mots, forger des concepts, s'approprier en fait les outils de la langue qui sont habituellement réservés aux auteurs de la littérature. Et c'est important en tant que locuteur de la langue d'apprendre à se débarrasser de ce complexe de la création des nouveaux mots, de se débarrasser de la peur qu'on a de dire un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Comme vous avez pu le constater, la richesse d'une langue, ce n'est pas juste son passé, c'est aussi son avenir, ce qu'on en fait et comment on le réinvente sans cesse. Contrairement à ce que disent et diront toujours les plus réactionnaires d'entre nous, personne n'est plus légitime qu'un autre à créer un mot. Cet acte tout simple, c'est le symbole d'une extraordinaire puissance, le pouvoir que nous avons toutes et tous à se réapproprier notre langue. Car non, le français n'appartient ni à l'académie, ni aux écrivains, ni même et surtout pas aux linguistes. Elle vous appartient à vous, locuteurs et locutrices, et vous avez le droit de vous en servir comme bon vous semble. Et surtout, n'oubliez jamais, si vous utilisez un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, c'est le dictionnaire qui se trompe, pas vous.
Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous avez des remarques ou des néologismes qui vous viennent en tête et que vous voulez nous partager, vous pouvez nous envoyer un mail à dailydelangue@proton.me. Daily au singulier et langue au singulier. Et puis, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et puis, sinon, on se retrouve comme d'habitude tous les derniers jeudis du mois de midi à 13h sur Prune. On vous revoit donc en fin janvier. Et d'ici là, portez-vous bien et réveillonnaillez bien.
Dis la revido.
Salut.